Bonjour à vous tous qui cherchez à vivre en devenant de plus en plus conscient. Je suis Véronique Brard, enseignante en Voice Dialogue, et je vais vous parler aujourd'hui de comment vivre en harmonie avec soi et le monde. Cela revient, pour moi, à développer un ego conscient par rapport à nos jugements pour vivre en harmonie avec ce qui est. Vivre en harmonie avec l'univers, être dans le flow, est plus facile lorsque nous permettons à notre âme, à notre soi supérieur, la part de nous qui est restée dans l'unité, et à nos guides de se joindre à nous. Mais nous avons un travail majeur à faire pour stabiliser cet état, cesser de nous juger et de juger les autres. Tout jugement sur nous-mêmes, toute critique, nous coupe de nous-mêmes, de l'harmonie et de la source. Un chemin pour vivre et manifester cette harmonie avec soi et le monde est de créer un ego conscient par rapport à nos critiques et jugements sur nous-mêmes et nos critiques ou jugements sur les autres. Notre monde est plein de haine et de jugement. Le jugement et la critique de soi sont devenus tellement la norme que personne ne s'arrête pour ne serait-ce que considérer la quantité de dommages qu'ils causent. Dans l'arène politique, le jugement a été élevé au rang d'art. Dans le monde du développement personnel, la critique de soi joue aussi un rôle beaucoup trop important. Nous portons nos précieux jugements depuis toujours. Nous jugeons nos pères, nos mères, nos beaux-parents, nos beaux-enfants. Nous détestons les partis politiques, les hommes politiques, certains acteurs, actrices, chanteurs ou nos voisins. Sans même nous en rendre compte, nous vivons dans un jugement constant sur tout et pour tout, y compris sur nous-mêmes. Or, nos jugements viennent simplement de notre conditionnement. Nos jugements viennent du fait que nous avons développé des parties primaires qui font tout ce qu'elles peuvent pour que leurs opposés n'aient pas le droit d'exister. Il serait temps d'arrêter ce culte du jugement et de la critique et d'apprendre à les utiliser comme vecteurs de conscience et de guérison. Chacun d'entre nous peut accepter ce défi, examiner toutes nos relations et voir où nous continuons à nous enliser dans les sables mouvants du jugement. Si nous nous référons aux lois de la psyché, le bulletin de Voice Dialogue numéro 130, le dernier, notre système primaire juge automatiquement toutes les énergies qui lui sont opposées. La bonne nouvelle est que nous pouvons nous décaler de ce système primaire et intégrer un pourcentage suffisant des énergies qui lui sont opposées pour garder notre discernement et ne pas nous dénigrer, nous détester, nous rendre la vie impossible avec nos jugements sur nous-mêmes et faire de même pour les autres. Maintenant, vous le savez, sous tout jugement se cache une blessure. Et travailler avec nos jugements va nous demander d'aller regarder cette blessure dont notre partie primaire prend soin automatiquement, y compris par ses jugements. Pour nous décaler de notre partie primaire et de ses jugements, nous allons devoir reconnaître nos blessures ou traumas et en prendre soin différemment. Il existe une autre alternative. Une autre alternative est de vivre simplement l'émotion liée à cette blessure autant de fois que nécessaire et de la laisser aller, de la laisser nous traverser. Il n'est pas toujours nécessaire de savoir à quelle blessure ou à quel trauma une émotion est liée. Il est suffisant pour évoluer, d'accepter cette émotion et de la vivre pendant 2-3 minutes aussi souvent qu'elle se présente. L'important est de ne pas la retenir par un processus mental qui cherche à comprendre, raisonner, qui cherche le coupable. Est-ce l'autre? Est-ce nous-mêmes? Qu'avons-nous fait de mal? Qu'est-ce que l'autre a fait de mal? Cependant, il peut être plus facile d'accepter de vivre pleinement une émotion de désespoir, de panique, de violence ou de jalousie extrême, ou toute autre émotion réprimée par notre système primaire, puis jugée lorsqu'elle fait irruption, si nous savons à quelle expérience traumatisante elle est reliée. Maintenant, quelle est la différence entre jugement et discernement ? Le jugement est une réaction négative à quelqu'un ou à quelque chose. Lorsque nous jugeons, nous pensons que quelque chose ne va pas chez l'autre personne ou dans la situation ou dans un objet même. Les jugements sont liés au système nerveux autonome et si nous nous mettons à l'écoute de notre corps, nous pouvons ressentir le niveau d'émotivité qui sous-tend le jugement. Les jugements sont toujours une fonction d'un système primaire qui réagit à la menace d'une copersonnalité reniée. Le jugement est une maladie humaine. Il ne fait pas partie de notre essence. Notre âme est venue ici, sur Terre, et elle a appris le jugement de la culture humaine, celle du lieu où nous sommes nés et où nous avons passé nos premières années, les années justement durant lesquelles notre personnalité s'est formée. Nous sommes aussi complètement imprégnés par les jugements de l'époque dans laquelle nous vivons adultes. Or, le jugement est une contraction, une énergie mentale coupée de la compassion. Il contient toujours un niveau de fermeture du cœur. Lorsque nous nous jugeons, nous avons besoin de revenir à l'énergie du cœur pour nous sentir moins tourmentés et hantés par nos jugements. Le jugement est différent du discernement ou du fait de faire des observations sur la façon dont les choses peuvent être améliorées. Le discernement, c'est une évaluation objective de quelqu'un, d'une situation ou de quelque chose. Le discernement n'a pas de valeur négative, il n'est pas émotionnel. Les jugements peuvent être transformés en discernement si nous nous intéressons à eux et cherchons ce qui se cache derrière. Nos jugements sur nous-mêmes bloquent notre âme. Notre âme est magnétique par nature. Nous avons besoin de sa présence pour devenir des êtres magnétiques capables de vivre et manifester la paix et la lumière si nous les désirons. Tout jugement sur nous supprime notre lumière. Tout jugement sur nous et sur les autres nous coupe du tout, de la source. Car dans notre monde de dualité et de contraste, tout est une expérience valable aux yeux de la source. Développer un ego conscient de nos parties primaires et de nos parties reniées nous rend capables d'accepter les polarités et de créer des relations non conflictuelles avec nous-mêmes et avec les autres. Cela se fait à travers nos expériences, à travers nos hauts et nos bas, et à travers l'amour de nous-mêmes. Nous dévaluer ou nous fustiger est juste une habitude de notre critique qui vient de ses croyances. L'une d'entre elles est « si tu souffres, c'est que quelque chose ne va pas chez toi ». Si je le pointe du doigt et si je te secoue, tu changeras et tu ne seras plus jamais malheureux. C'est le travail de notre critique, c'est ce qu'il pense en tout cas, que nous ne soyons plus jamais malheureux. Et c'est une des raisons majeures pour laquelle nous critiquons dès que quelque chose ne va pas et que nous sommes tristes ou tourmentés par quelque chose. Ou si nous avons peur. Cette partie de nous devient très dure avec nous lorsque nous ne sommes pas au top ou lorsque nous ne sommes pas comme elle le veut. Cette partie de nous est liée au mental humain. Ce n'est jamais notre âme, ce n'est jamais notre soi, celui qui réside dans l'unité, ce n'est jamais notre guide qui nous critique. C'est notre conditionnement humain qui prend le dessus. C'est tout à fait normal. Critiquer, juger, en fait, est normal. Alors, permettons-nous de trouver ça normal. Nous pouvons reconnaître que cette part de nous, ce critique, fait de son mieux, mais que ses procédés ne sont plus ce que nous désirons. Lui donner un peu d'amour, tandis que nous nous décalons de ses façons de faire, peut aider. L'éco-personnalité, d'une façon générale, qui ont des comportements que nous détestons, qui nous agacent, que nous voulons à tout prix faire évoluer, ont besoin également d'un regard aimant sur elles. Prenons Paul, par exemple. Une partie de Paul stresse à l'idée de se retrouver en groupe avec des gens qu'il ne connaît pas. Donner de l'amour à cette partie de lui n'est pas son premier mouvement. Pourtant, c'est exactement ce dont cette partie a besoin. Derrière tout stress, toute peur, il existe un historique. Cela peut venir de vie passée, mais il existe toujours un rappel de ce vécu passé dans notre vie actuelle. Nous réactivons ce que nous sommes venus travailler grâce à certains événements de notre enfance. Disons que lorsque Paul était enfant, se retrouver dans des événements de groupe, famille ou amis donnait lieu à des suites difficiles. C'était toujours lorsque nous étions en groupe que maman buvait. Cela mettait papa en colère et le chemin du retour en voiture avec eux était absolument horrible. Son corps, du coup, a créé une réponse de peur et de panique à l'idée de se retrouver dans des groupes. Ce stress est un rappel de son passé, de la façon dont il ne pouvait pas se protéger enfant. Il peut maintenant se sentir toujours aussi mal à l'aise à l'idée de se retrouver dans un groupe, mais en réalité, aller dans un groupe en tant qu'individu indépendant ou avec une partenaire choisie va guérir cette blessure. Il pourrait laisser aller cette terreur aujourd'hui. Tout le long de notre vie, nous laissons aller des couches et des couches d'émotions anciennes ou de comportements anciens qui correspondent à un moment donné de notre vie et qui étaient adaptés à ce que nous vivions dans ces moments-là. C'est lorsque nous voyons ces comportements qui ne sont plus adaptés au présent que l'amour devient nécessaire, tout comme notre discernement pour faire la différence entre les circonstances passées et actuelles. Nous ne pouvons pas être durs avec une partie de nous sans reconnaître qu'elle fait partie de nous et nous a servi. Nous ne pouvons pas retirer une partie de nous que nous jugeons indésirable. Ce sont des copersonnalités que nous devons aimer, aider et réconforter. Lorsque nous sommes jeunes, notre énergie est grande, vaste, et les peines et les blessures sont ressenties de façon très forte. Elles laissent aussi des empreintes très fortes. Aujourd'hui, nous voulons nous décaler de la partie de nous qui garde cette empreinte. Nous ne pouvons le faire que lorsque c'est le bon moment. Tant que cette empreinte nous sert d'une façon ou d'une autre, elle reste présente. Aujourd'hui, c'est peut-être le moment pour Paul d'avoir du plaisir à être en groupe. Pourquoi n'était-ce pas possible avant? Peut-être qu'en se tenant à l'écart d'activités de groupe, il a pu se concentrer sur d'autres activités importantes pour lui qu'autrement il aurait délaissé. Nous sommes parfois irrités par ces parts de nous qui gardent ce genre d'empreintes. Elles sont la mémoire du corps et le corps a ses raisons. Tant que cette empreinte est là, c'est qu'elle nous sert d'une façon ou d'une autre. Se sentir être dans le flot est ce que nous désirons tous. Tout coule, tout se fait de façon magique. Nous pensons à quelque chose, désirons quelque chose et cela arrive naturellement. Dans ces moments-là, nous nous sentons bien, nous nous sentons en harmonie avec l'univers. Notre jugement sur ce qui se passe interrompt la façon dont les choses se déroulent et nous sortent de ce flot. Ne pas se critiquer lorsque la vie descend d'un cran ou de plusieurs pendant un certain temps nous permet de rester dans le flot de la vie tel qu'il se présente dans le moment. Ce n'est pas une régression que de revenir à un état où nous sommes beaucoup moins connectés. C'est une façon de revenir à notre corps, à nos blessures, en vue d'un nouveau palier ou d'une nouvelle spirale de guérison. Un autre facteur est qu'il ne s'agit pas simplement de nous, de nos désirs, de notre volonté. Bien des choses dépendent aussi de notre environnement. Une partie de notre travail en tant qu'être humain est de bouger les énergies lourdes, les énergies de basse fréquence, non seulement les nôtres, mais celles de tous. Chaque génération a eu l'opportunité de le faire et nous continuons. Nous sommes venus, entre autres, pour ça. Le flow, ce n'est pas ne jamais se sentir lourd ou coincé dans de basses fréquences. C'est faire l'expérience de ce qui est là, sans jugement, c'est être présent, c'est être. L'évolution se fait de façon cyclique. Nous évoluons en passant par des hauts et des bas énergétiques et fréquentiels. C'est normal. Il est déterminant pour rester dans le flot du vivant de ne pas nous juger lorsque nous sommes dans une phase difficile ou inconfortable, ou lorsque nous sommes revenus à une ancienne routine qui nous rend moins heureux. Ces hauts et ces bas sont nécessaires tant qu'ils existent. Nous progressons plus rapidement sur notre chemin de guérison lorsque nous nous permettons d'être exactement là où nous sommes, sans nous comparer, pas même avec nous-mêmes, et sans vouloir être à une autre étape que celle que nous explorons dans le moment présent. Maintenant, si cette étape dure trop longtemps, n'oublions pas qu'il existe beaucoup de collègues aux talents variés qui peuvent nous aider. Nous restons connectés et dans le flot lorsque nous pouvons cesser de nous sentir frustrés lorsque nous passons par ce processus de haut et de bas. Tout le secret est là. Nous continuons d'être dans le flot, mais d'une manière différente. Aujourd'hui ou cette semaine, je suis en harmonie avec la lenteur, la difficulté, le blocage. J'ai bien essayé de faire avancer les choses, mais rien ne marche. Je reste donc dans le flot avec ce qui est là. Ou, cette semaine, je suis en harmonie avec l'élan. Tout semble vouloir bouger et se mettre en place. C'est juste une autre façon d'être dans le flot. Seuls les jugements bloquent ce flot. Maintenant, bien sûr, nous sommes immergés dans notre expérience humaine et nous sommes censés l'être. Pourtant, prendre un certain recul allège le poids que nous pouvons ressentir dans certains moments plus difficiles. Mais tout jugement stoppe nos progrès. Le moyen le plus rapide d'arrêter nos progrès est de nous juger. Rien de mal à arrêter de progresser. Parfois, nous en avons besoin. Nous avons besoin de déployer et de vivre la totalité de nos jugements sur nous-mêmes, ne serait-ce que pour voir ces jugements et nous rendre compte qu'ils sont là en permanence et qu'il est difficile d'être heureux, enthousiaste ou simplement en bonne santé avec ce regard sur nous. Nous pouvons alors chercher comment nous regarder avec une perspective différente, avec gentillesse, avec indulgence. Pourquoi suis-je si stressée de rejoindre ou de faire partie d'un groupe? Qu'est-ce que je peux faire pour cette partie de moi? Eh bien, tout d'abord, nous pouvons nous féliciter de faire cette démarche alors qu'elle n'est pas facile pour nous. C'est là que peut se faire le prochain pas d'évolution. La volonté de nous accepter complètement et totalement aussi souvent que nous en sommes capables. La volonté de nous accepter complètement et totalement, quel que soit l'état dans lequel nous nous trouvons, quelles que soient nos pensées ou nos émotions, et cela aussi souvent que nous le pouvons, pour devenir des parents aimants pour nous-mêmes et pour nous reparenter, pour construire en fait de nouveaux circuits neuronaux. Beaucoup d'entre nous ont choisi de guérir les blessures venues de parents difficiles en devenant des parents pour les autres, voisins, amis, clients ou et enfants biologiques. Mais le plus grand défi est la façon dont nous sommes des parents pour nous-mêmes. La gentillesse avec laquelle nous pouvons nous approcher de nous-mêmes et nous regarder. Cela peut être désagréable de réaliser que nous ne sommes ni doux ni gentils avec nous-mêmes. Mais là aussi, soyons indulgents et patients. C'est merveilleux de le voir, de s'en apercevoir. Cette vision consciente est le précurseur du changement. Lorsque nous devenons conscients de quelque chose, nous pouvons le changer. Lorsque nous ne faisons que vivre en réaction à certains schémas, il est très difficile de prendre de la distance pour voir ce qui se passe. Aller dans l'espace de la vision consciente nous permet de prendre ce recul. La gentillesse envers nous-mêmes est une bonne étape pour créer une vie où l'âme peut fonctionner et coopérer avec notre humanité. Cela nous donne la possibilité de continuer à nous guérir à des niveaux de plus en plus subtils. Comme nous l'avons dit, nous laissons aller continuellement d'anciennes façons d'être et de nous comporter qui ne nous servent plus. Nous pouvons les laisser aller avec amour, avec tendresse, en les remerciant pour la façon dont elles nous ont servi. Nous avons besoin de nouer des liens les uns avec les autres et la plupart de nos copersonnalités ont aussi besoin d'être en lien amical avec nous. La plupart recherchent le lien, même les plus impersonnels, distantes ou acariâtres. Nous ne sommes pas des machines à réparer. Nous sommes des entités vivantes dans lesquelles l'esprit est vivant. Nous sommes des étincelles divines venues faire l'expérience de la dualité dans des corps humains. Une fois cela reconnu, nous passons de façon de vivre dense, où tout est noir ou blanc, pour aller vers des façons de vivre plus légères, plus aimantes, plus respectueuses de la multiplicité de nos énergies et conscientes de notre multidimensionnalité. Gérer avec intelligence et empathie les moments où nous nous sentons mal devient alors plus facile. Pouvons-nous par exemple permettre à notre introverti d'avoir la semaine de solitude qu'il demande, même si l'extraverti adore être avec les autres et se sent très mal à l'idée de ne pas répondre oui dès que les autres le réclament? Je ne peux pas, mon introverti a besoin que je reste seule cette semaine. Ce n'est pas être déprimé, c'est être en flot avec soi-même. C'est reconnaître que parfois, pour nous sentir connectés, cela nous demande de passer une semaine ou plus seul. Pouvons-nous nous permettre d'accepter que la semaine dernière, nous avons eu une magnifique semaine avec des liens extraordinaires avec des gens pleins d'amour et de joie, et que cette semaine, nous nous sentons tristes, déconnectés, de mauvaise humeur? Pouvons-nous commencer alors à utiliser nos outils? Est-ce bon pour moi de sortir et d'aller voir mes amis les plus proches? Non, mon corps ne répond pas positivement à cette idée. Cela semble trop. D'accord, puis-je mettre ce morceau de musique que j'aime bien? Oui, répond le corps. Je n'ai pas envie d'écouter de la musique, grogne une autre partie de nous. Eh bien, nous allons le faire quand même, répond l'ego conscient de la réponse du corps et de celle de l'enfant frustré et de mauvaise humeur. Pouvons-nous gérer les colères et les bouderies de notre enfant intérieur ou de notre ado frustré ou de notre victime comme nous le ferions avec un enfant ou un ado extérieur? En parent aimant, qui sait que si le corps dit oui et d'autres parties disent non, écouter le corps est préférable. Pouvons-nous nous diriger avec douceur, amour et fermeté pour revenir au sentiment d'être connecté? La porte la moins souvent ouverte va devenir celle que beaucoup d'entre nous vont pousser. Nous allons nous surprendre avec de nouveaux comportements, de nouveaux schémas de fonctionnement. Lorsque nous ouvrons une porte qui n'a jamais été ouverte, nous nous demandons pourquoi nous ne l'avons pas fait auparavant. En fait, cela correspond à un changement de système primaire, un changement d'identité. Certaines copersonnalités ne sont plus aux commandes, d'autres ont davantage de place. Ces anciennes parties primaires étaient magnifiques, elles étaient nous. Elles peuvent nous sembler limitées ou peu conscientes aujourd'hui, mais elles ont été nos points forts à certains moments. Nous pouvons les remercier. Se connaître soi-même est une phrase clé. Se connaître au niveau de l'âme, se connaître au niveau humain, se connaître dans ces nouvelles identités qui se déploient. Puis viennent le jugement des autres. Nous les ressentons toujours. Nous ressentons la méfiance, nous ressentons le mépris, le fait que quelqu'un ne nous aime pas. Une périphrase pour tout cela est « Quelque chose en nous alarme le système primaire d'une autre personne. Ces parties primaires s'agitent en réponse à ce que nous sommes. Lorsque c'est un proche, nous pouvons en parler. Pour les autres, les éviter quand c'est possible est le mieux. Si ce n'est pas possible, nous allons devoir développer un aspect assez impersonnel de nous-mêmes. Une partie de notre défi est que cela va contre notre nature la plus profonde. Sentir que quelqu'un ne nous aime pas nous alarme. Nous voulons être aimés. Cela fait partie de notre conditionnement. En tant que bébé, puis en tant qu'enfant, pour survivre, nous avons dû faire en sorte que ceux qui prenaient soin de nous nous aiment. Si les bébés animaux ou les bébés humains sont si irrésistibles, c'est peut-être pour nous faire oublier l'immense somme de travail qu'ils vont nous demander. De toute façon, nous tombons amoureux d'eux et créons avec eux ce lien dont ils ont absolument besoin. Bien sûr, nous sommes aussi émerveillés par le miracle de la vie, le miracle de l'âme entrant dans un corps et commençant son voyage sur terre. Le bébé et le jeune enfant amènent avec lui l'énergie encore intacte de l'esprit. C'est ce qui les rend si attractifs. C'est émouvant de voir leur énergie, d'en être le témoin et de se souvenir de cette énergie. Cela nous ouvre le cœur. Cette énergie va rester aussi longtemps que l'enfant est encouragé à la garder. Elle peut aussi être rapidement modifiée ou supprimée par le conditionnement qui lui sera imposé. Ne pas être aimé, ne pas être en lien peut nous rendre anxieux. Il existe un aspect physique à cette nervosité. Notre survie a dépendu du fait d'être aimé. Cependant, les jugements d'une personne, le fait qu'elle ne nous aime pas, parlent de ses parties primaires et n'ont pas grand-chose à voir avec nous. Travailler à devenir plus impersonnel, à ne pas prendre tout jugement comme une insulte personnelle, permet, lorsque nous ne pouvons pas faire autrement, de supporter d'avoir dans notre environnement des personnes qui nous jugent ou n'aiment pas certains aspects de nous. Une fois que nous reconnaissons que nos jugements proviennent de notre système primaire et que la personne que nous jugeons porte par mécanisme de projection une de nos copersonnalités reniées, nous sommes prêts à faire une découverte remarquable. Nous sommes prêts à découvrir que l'objet jugé ou détesté est l'enseignant dont nous avons besoin à ce moment précis de notre vie pour nous aider à redevenir complets. Nous sommes toujours à la recherche de maîtres en robe blanche pour nous enseigner la spiritualité. C'est un type d'enseignement. En ce qui concerne les relations, les meilleurs enseignants se trouvent dans notre vie actuelle, à la maison et au travail. Ce sont les personnes que nous ne supportons pas, celles que nous jugeons sans cesse et dont nous parlons continuellement. Ils ne portent généralement pas de robe magique, mais ils ont néanmoins le remède dont nous avons besoin. C'est une idée qui peut être choquante. Elle exige un changement complet de perspective. Au lieu de ressentir la justesse de nos jugements, nous regardons l'autre personne et disons d'abord « Oh, vous ne voulez pas dire que Fabrice, ce manipulateur irresponsable et égoïste, est un enseignant pour moi ? Il met tout le monde à son service, il n'a aucune morale et ne pense qu'à lui. » Une fois que nous avons surmonté la nausée, le choc et le risque d'évanouissement, nous sommes prêts à passer à l'étape suivante. Si je suis si totalement négatif à l'égard de cet homme, c'est que je valorise l'honnêteté dans les relations, la confiance, la responsabilité et le sens des autres. J'ai dû me débarrasser de ma propre nature de manipulateur et d'égoïste en grandissant dans mon système familial. Nous pouvons maintenant commencer à faire certains recoupements et à approfondir notre compréhension de ce qui se passe. Je me souviens que ma mère reprochait toujours à mon père d'être égoïste, irresponsable et manipulateur. C'était un homme brillant qui ne prenait pas soin des siens. Il faisait beaucoup souffrir ma mère. Il ne lui donnait pas un sou quand lui menait grande vie. Je me suis identifiée à ma mère et je ne supportais pas mon père. Enfin, nous commençons à nous rendre compte à quel point Fabrice est un enseignant pour nous. Cet homme que nous détestons a quelque chose pour nous. Il a un médicament dont nous avons besoin pour équilibrer notre personnalité. Nous pouvons ne prendre que quelques granules homéopathiques de cet égoïste, de ce manipulateur et de cette capacité à ne pas se sentir responsable. Cela suffira à équilibrer notre personnalité et à nous séparer suffisamment de notre système primaire pour nous différencier de ses jugements. Lorsque cette conscience s'installe, nos rêves changent. Le changement d'attitude à l'égard de nos anciens ennemis a un impact sur notre inconscient et nos rêves nous aident à intégrer ces nouvelles copersonnalités. Nos rêves deviennent alors des guides. Nos jugements sont de parfaits indices sur quelles sont nos primaires ou quelles sont nos blessures. Lorsque les jugements sont notre premier et dernier mouvement, nous restons fermés. Lorsqu'ils sont l'occasion de chercher ce qui les a provoqués, nous ouvrons la porte à la connaissance de nous-mêmes. Nous pouvons découvrir que nous continuons à avoir peur de ce qui était dangereux pour nous dans notre enfance et expliquer clairement à notre enfant intérieur la différence entre le passé et le présent. Nous pouvons découvrir que les jugements d'une horrible personne touchent en fait une de nos blessures. Cela va nous permettre de la regarder de nouveau et d'en prendre davantage soin. Tout jugement qui se transforme en discernement permet à notre âme de s'incarner un peu plus dans notre humanité. Comme pour toute naissance, cela ne se fait pas sans contraction et inconfort. Nous jugeons les figures publiques qui représentent nos parties reniées dans leur extrême, celui qui va entraîner la juste colère de notre système primaire. Sous ces jugements se tiennent des informations. La question est, voulons-nous laisser tomber nos jugements pour regarder ces informations et voir de quoi cela parle? À ce moment-là, nos jugements s'apaiseront et notre parole deviendra plus puissante. Au lieu de simplement dire « je ne peux pas blairer ce mec », nous serons capables d'en donner calmement les raisons. Il existe quelque chose chez cet homme qui fait que je ne peux pas avoir confiance en lui. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais j'ai été témoin de certains comportements qui font que je ne pense pas que cette personne se soucie du bien des personnes dont il est responsable. Il existe certaines raisons objectives au fait de ne pas apprécier une personne. Donner ces raisons sera source de davantage d'informations pour celui qui nous écoute que nos jugements. Lorsque nous parlons sans vouloir convaincre l'autre, sans qu'une émotion s'active en nous, nous sommes dans le discernement. Nous vivons à une époque où une certaine faction désire que les jugements existent sur la planète, car les jugements mènent à la séparation. En contrepartie, nombre de personnes partout dans le monde cherchent à sortir de leurs jugements sur elles-mêmes et sur les autres. Juger pour elles devient de plus en plus inconfortable. Bien des gens cherchent aussi à nous dire ce que nous devons penser et ce que nous devons faire. Nous pouvons accepter leurs avis et y réfléchir, surtout s'ils sont contraires à ce que nous pensons. Réfléchir posément à leur avis nous permet d'élargir notre processus d'égo-conscient. Cependant, ne plus juger ne veut pas dire manquer de discernement. Nous pouvons découvrir à quel point certaines personnes ont une grande incertitude quant à leur propre façon de faire et essaient alors de rallier tout un chacun à leur cause. Lorsque nous changeons notre façon de vivre, nos proches, collègues ou amis peuvent nous juger. Demandons-nous s'ils ont si peu confiance en nous qu'ils veulent contrôler nos actions? Nous faisaient-ils confiance uniquement parce que nous agissions d'une façon qui correspondait à leurs croyances? Nous ont-ils jamais vraiment vus, nous, en tant que personnes, ou ont-ils juste vu quelqu'un qui allait dans leur sens et affirmait la même chose que ce qu'ils tenaient pour vrai? Nous pouvons être en lien avec une personne qui va réellement voir qui nous sommes, nous aimer pour qui nous sommes et être curieuse de savoir quelle sera notre prochaine étape. Mais il arrive que nous soyons en lien avec une personne qui va être furieuse après nous lorsque nous arrêterons d'être celle dont elle a besoin pour se sécuriser. Il n'est pas nécessaire de juger ces gens, même lorsque ce sont nos proches et que notre blessure d'abandon se réveille. Nous pouvons mettre fin à ce genre de relation, prendre soin de l'enfant abandonné et rester dans l'unité. Seuls nos jugements nous divisent, non le discernement. Par contre, il nous rend conscients de ce qui est juste pour nous ou non. En conclusion, plus nous allons nous approuver, plus nous allons construire un approbateur, plus nous allons détricoter notre conditionnement. Plus nous pourrons revenir au cœur et devenir doux et patients avec nous-mêmes et les autres. Nous pourrons alors reconnaître ce qui est juste pour nous et ce qui ne l'est pas, ce qui est fait pour nous et ce qui ne l'est pas. Nous pouvons nous poser régulièrement la question « Que faisons-nous que nous ne voulons pas faire et que désirons-nous faire que nous ne faisons pas ?» Lorsque nous commençons à faire davantage ce que nous aimons, notre âme chante. Alors, reconnaissons l'importance de ces domaines. Laissons-les prendre davantage de place dans notre vie et se multiplier. C'est ainsi que la vie devient magique. La magie existe dans un monde devenu magnétique, c'est-à-dire où l'âme est éveillée et agissante. La magie est importante. Les expériences magiques nous permettent de ressentir. Cela n'impressionne pas seulement notre mental, cela nous ouvre. Et lorsque nous sommes ouverts, nous sommes dans le flot, nous cessons de nous juger et de juger les autres. Nous sommes tous uniques et nous sommes tous égaux. Aucune personne n'est plus avancée qu'une autre, aucune lumière n'est plus brillante qu'une autre, aucune tâche n'est plus importante qu'une autre. Nous sommes des êtres divins vivant une expérience en tant qu'êtres humains, non des êtres humains essayant de devenir des êtres divins. Alors, imaginez, comment serait-ce de se sentir valable, à la hauteur, précieux, important, aimable, désirable et désiré? Comment ce serait de savoir que nous avons toujours fait de notre mieux? Pouvons-nous l'imaginer? Pouvons-nous développer un ego conscient par rapport à nos jugements et vivre en harmonie avec ce qui est, en harmonie avec soi, avec le monde, avec la source de toute vie? C'était Véronique Brard, enseignante en Voice Dialogue, et vous retrouverez le texte de ce podcast dans le numéro 31 de Voice Dialogue. Merci de votre écoute. Au revoir. À bientôt.